Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Vous l'attendiez, la voilà, votre émission cinéma, l'un des gros succès de Vivante Église. Une fois par mois, le dernier vendredi de ce dernier, nous éteignons avec vous les lumières et faisons tourner la manivelle. Au programme ce matin, trois films, La douleur, La vie des autres et Joseph l'insoumis. Le dénominateur commun de ces trois films peut être une réalité que nous cherchons souvent à fuir et qui pourtant est comme sous-jacente à nos vies, la gravité. Ce poids des choses et du réel, ce moment où l'on sent ses tripes se serrer parce que l'on pressent que la vie est aussi dure que belle. D'aucuns appellent cela la grave allégresse. Émission donc, le Ciné-Club de Vivante Église, ce matin avec nos deux spécialistes cinéma, Louis-Marie Seller, monsieur cinéma de Radio Présence, producteur de N'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi à 19h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et Paul Dima, monsieur cinéma des Cotopaïs, ce centre spirituel jésuite du Sud-Ouest, et également accompagnateur de retraite cinéma. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous également.
Et voilà, et vous deux, donc bonne année à vous, et vous deux, vous êtes donc les co-animateurs, je rappelle, de Ciné-Parole. Peut-être qu'on en redira quelques mots au début de cette émission. Allez, tout le monde n'écoute pas à chaque fois, en deux phrases, la baseline de Ciné-Parole, Paul Dima.
Ciné-Parole est fait pour les gens qui aiment le cinéma et qui aiment en parler. Parce que souvent, après les films, on sort de la salle sans dire un mot. Sinon, c'était bien, bon, c'était pas terrible. Mais rien de plus. C'est comme si rien ne nous avait atteint, rien ne s'était passé. Et on a trouvé ça très dommage. Et apparemment, les gens prennent goût au jeu d'entendre, de dire leurs réactions, les questions qu'ils ont envie de poser au film, puis d'entendre les questions des autres et en débattre. Voilà.
Voilà, Ciné-Club, donc, au cinéma de l'ABC à Toulouse. Et puis il y a peut-être une autre vertu au fait d'en parler, c'est qu'on peut en parler entre soi, parfois en couple ou avec des amis, mais de passer par un tiers, est-ce que c'est pas une plus-value, et puis par un tiers qui connaît un peu le cinéma?
C'est-à-dire que l'intérêt de ces échanges, c'est qu'ils se passent en dialogue constant avec le film, c'est-à-dire qu'on part pas sur des théories ou sur si ça avait été autrement, voilà, on dit à ce moment-là c'est un autre film. Non, on parle de celui-là et plus on creuse, plus on a des choses à dire en fait.
Alors, premier film qui est sorti donc ce mercredi, La douleur d'Emmanuel Finkel. Donc film à partir d'une nouvelle, c'est ça, hein, de Marguerite Duras.
On peut dire ça comme ça. C'est un peu plus compliqué à définir parce que quand Marguerite Duras a voulu parler de cette période de la Seconde Guerre mondiale qu'elle avait vécue, elle a repris des notes qu'elle avait prises. Elle avait fait un carnet de bord, donc elle a repris ses notes. Et c'est un ensemble de nouvelles qui sont des nouvelles qui sont ordonnées, un peu comme des chapitres, et l'une d'entre elles, qui est la plus longue, s'intitule « La douleur ». Mais toutes ont un lien les unes avec les autres, y compris, enfin, et surtout avec celle qui s'intitule « La douleur ».
Voilà, donc film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui met en scène Marguerite Duras, même si évidemment c'est pas elle, jouée par une certaine Mélanie Thierry. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être le film, Louis-Marie, nous dire un peu le propos de l'intrigue avant qu'on écoute un premier extrait?
Eh bien, dans ce livre, donc, ce que je viens de dire à propos du livre La douleur de Duras, qui est sorti en 1985, alors qu'il rapporte des faits qui sont passés en 1944. À l'époque, elle était jeune, une trentaine d'années, elle est née en 14, et elle a vécu à Paris, donc pendant l'occupation allemande. Et parmi ses activités, elle a bien sûr commencé à toucher l'édition, l'écriture, et puis elle a fait partie d'un réseau de résistants. Et son mari, de l'époque, Robert Anthelme, a été arrêté par la Gestapo au début de l'année 44. Et en fait, dans La douleur, elle parle de sa souffrance, de ce manque, de l'absence de cet homme et d'être dans cette incertitude de savoir s'il est mort, s'il n'est pas mort, et si elle arrivera à le revoir et s'il arrivera à revenir. Puisqu'on est dans une période qui est un peu trouble maintenant, on le sait, 44, le 6 juin 44, les forces alliées débarquaient en Normandie et on sait que la guerre a basculé à ce moment-là. Donc le film est ce qu'elle a écrit raconte ce moment, ce basculement, cette attente entre le moment où il y a encore les Allemands, l'occupant, et puis après, l'immédiate après-guerre.
Donc elle cherche à avoir des nouvelles de son mari.
Et c'est-à-dire donc, qu'au début, au début du film, au début de l'histoire, en fait, elle va avoir des nouvelles de son mari. Les Allemands sont toujours là. Elle fait en sorte de savoir si son mari est toujours est prisonnier ou s'il a été fusillé immédiatement ou s'il a été déporté. Et ouais. Après, une fois qu'elle apprend qu'il a été déporté, eh bien, survient cette attente terrible de savoir s'il reviendra ou pas.
Voilà, donc une relation se noue avec un certain Pierre Rabier, joué par Benoît Magimel, qui est donc un collabo. Hein.
Oui, c'est-à-dire qu'au moment de ses démarches, Marguerite va à la préfecture, je crois, pour savoir si elle peut faire parvenir un colis à son mari, et puis avoir de ses nouvelles, et elle tombe sur cet homme qui va lui faire comprendre qu'il peut faire quelque chose quand même, qu'il peut agir, qui peut faire parvenir déjà ce colis, et puis après il va instaurer avec elle une relation un peu trouble, parce que pour avoir des nouvelles de son mari, il va l'obliger à avoir des rendez-vous avec lui.
On va écouter un premier extrait qui peut-être va nous aider à nous plonger dans le film, ça va sans dire, mais aussi à nous plonger dans cette période de l'histoire de France.
Rabier me téléphone tous les jours. Les rendez-vous qu'il me donne sont toujours de dernière minute. Toujours à des heures également inattendues. Par exemple, 6h moins 20, 4h10. Des rendez-vous toujours dans des lieux ouverts. Des endroits à plusieurs sorties, café d'angle, carrefour de rue. Quartier de prédilection, 6e arrondissement, l'Assemblée, République du Roc, Palais Royal. Rabier arrive toujours très en avance sur l'heure donnée et il attend toujours assez loin de l'endroit du rendez-vous. Quand c'est dans la rue, il est toujours plus loin que l'endroit indiqué. Quand c'est dans un café, il est par exemple sur l'autre trottoir, mais pas devant le café. Il est toujours là d'où l'on voit le mieux celui qu'on attend. Souvent, lorsque j'arrive, je ne le vois pas. Il surgit de derrière moi. Restaurant, porte close. Les amis frappent à la porte, le beurre sur les tables, la crème fraîche déborde de tous les plats, les viandes ruisselantes, le vin. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Il en est désespéré. Chaque fois que je dois voir Rabier, je fais comme si c'était pour être tué. Je fais comme s'il n'ignorait rien de mon activité. C'est chaque fois, chaque jour. Les camarades ont peut-être raison. Ce collabo cherché par moi a remonté tout le réseau. Il se sert de moi, alors même que je crois me servir de lui. Régulièrement, il me donne des preuves, des gages. Il me permet de faire parvenir quelques lettres, m'informe de certaines décisions allemandes quant aux prisonniers, des conditions de leur détention.
Ce Robert, il dit quoi ?
Il m'a dit qu'il n'était pas malade, il n'a pas été torturé. Je suis sûre qu'il dit vrai. Il a besoin de cette vérité pour me tenir entre ses mains. Je sais pas. Je vais y croire.
Paul Dima, vous aviez un commentaire. Ça plonge dans, pour ceux qui l'ont connu, peut-être que ça leur rappellera des terribles souvenirs, mais en tout cas c'est...
Tout est extrêmement bien articulé dans cette séquence qu'on vient d'entendre, à la fois le récit, enfin l'écriture de Marguerite Duras, et on voit bien le contraste entre la façon dont elle dit qu'elle est attendue mais guettée, ce qu'elle découvre dans le restaurant où elle arrive, ou le café, il y a du pain, il y a de la crème, il y a du beurre, il y a tout ça, ce qu'il n'y a pas pendant la guerre, on voit bien le décalage, qui fait peser en même temps une grosse question sur pourquoi tout ça, et c'est très bien articulé avec la musique, qui par ses continuums aigus, là, fait comme des traits inquiétants, sinon angoissant, mais on sent bien que là, il y a quelque chose de très le chat et la souris, quoi.
Alors, parmi les thèmes dont on avait parlé en préparant l'émission, entre autres, on peut parler d'une forme de déraison de l'amour. Voilà, c'est-à-dire l'amour qui pousse à faire les choses les plus folles, à la fois les choses les plus héroïques et parfois les choses les plus compromettantes, qui parfois fait perdre la raison. Et apportez-nous peut-être un commentaire sur cette thématique, Louis-Marie.
Mais c'est justement sur ce que vous venez de dire, Emmanuel, que porte le film, et ça, le manque, l'absence. C'est exactement ça que Emmanuel Finkiel a voulu montrer, et il l'a montré remarquablement bien parce qu'il a été capable. Alors le film, si on s'en tient purement à l'action, il se passe pas grand chose dans le film, hein. Si ce n'est au début du film cette relation très très particulière, très ambiguë avec Pierre Rabier, dont on comprend bien en écoutant l'extrait qu'on vous venez de diffuser que ben Marguerite pense manipuler cet homme, mais en fait c'est lui qui la manipule, et il se demande bien, et même ses camarades du réseau de résistance lui disent « mais tu fais une folie là, on joue notre vie là », et ils ont raison, sauf que cet homme, voilà.
Puis c'est une relation de séduction.
C'est une relation de séduction.
J'ai l'impression qu'elle consent un peu.
Exactement. Et puis, il met des choses en avant. Alors, donc, le film, il y a cette première partie qui est plutôt narrative. Hein, on l'a compris avec la façon dont parle Marguerite. Va jusqu'au moment où l'occupation allemande, toute la guerre bascule. Et au moment où elle comprend que son mari a été déporté et que cette relation n'a plus de raison d'être, parce que cet homme était intéressant tant qu'il avait du pouvoir. À partir du moment où son mari a quitté Paris, il ne peut plus rien faire, c'est fini. Donc à ce moment-là, elle n'a plus qu'à vivre avec cette absence et composer avec elle. Et c'est là où le film bascule et où Emmanuel Finkiel navigue zigzag entre Marguerite Duras, donc l'auteur, l'écrivaine, et Duras, la femme. C'est-à-dire entre celle qui écrit et qui pense cette absence et qui l'analyse en écrivant, en utilisant ses notes, mais elle l'écrit en 1985, et celle qui le vit. Il joue sur ces deux tableaux. Il dédouble en fait la personnalité de Duras.
On va juste écouter un deuxième extrait. C'est donc peut-être on pourrait dire que c'est un extrait sur la peur ou le courage, je ne sais pas. Et puis après, on va entendre vos commentaires.
L'Allemagne a perdu. L'Allemagne a perdu, enfin tout le monde le sait.
C'est terrible ce que vous dites, mais c'est pas grave. De vous voir gay, ça me fait plaisir.
Excusez-moi, mais qu'est-ce que cette femme dit ?
Elle a arrêté son mari.
Ah, c'est ça.
Ça.
Vous savez, on m'a dit quelque chose une fois sur la peur. Les rafales de mitraillettes, on aperçoit l'existence de la peau de son corps. Sixième sens qui se fait jour.
Vous parlez de moi quand vous dites ça? Ou vous pensez à votre mari?
Non, là, je ne pense pas à lui.
Excusez-moi.
Voilà cette conversation donc dans un bistrot parisien qui est, on pressent un lieu où se retrouve davantage ce qu'on appelle aujourd'hui des collabos.
C'est plus qu'un bistrot, c'est ce qu'on appelle, qui est typiquement parisien, c'est une brasserie.
Voilà, une brasserie. Voilà, merci d'être aussi pointilleux.
Mais non, mais c'est important parce que vous entendez, il y a de la musique.
Oui,
il y a de la musique
sûr.
Et on mange.
Et le débarquement a déjà eu lieu, et c'est pour ça qu'elle dit.
On mange bien, on y mange bien de la nourriture, de la bonne nourriture, on y boit du vin. Et donc, c'est quelque chose qui est assez surprenant, comme l'a souligné Paul Dimain. Il ne faut pas oublier que les gens ne mangeaient pas leur faim pendant la guerre. Il y avait rationnement. Hein.
Un commentaire, Paul, et on va faire une première pause.
Le commentaire, la trame du film, c'est par amour, jusqu'où on peut aller dans le compromis, la compromission, prendre des risques, et en même temps jouer finement pour ne pas être, pour ne pas être piégé. On peut dire aussi que cette dynamique-là de la relation qui existe entre cette femme et son mari, dont elle n'a pas de nouvelles, l'oblige à jouer fin et à être subtil. Il y a quelque chose de créatif qui est suscité par cette tension amoureuse et la séparation avec son mari.
Voilà, La Douleur, donc film d'Emmanuel Finkel, qui est donc à l'affiche et qui sera donc le film du prochain Ciné-Parole, mardi 30 janvier prochain, deux séances, 14h30 et 20h30. À l'ABC, on fait une première pause avec la musique, un extrait de La Vie des Autres, voilà, deuxième film dont on va parler, qui est donc le chef-d'œuvre humaniste de ce vivant église Ciné-Club.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc le Ciné-Club de Vivante Église, et donc pour rappel, trois films à chaque fois, un film à l'affiche, c'était La Douleur, un chef-d'œuvre dit humaniste et un chef-d'œuvre spirituel, et donc le chef-d'œuvre humaniste du jour, c'est donc La Vie des Autres, film magnifique s'il en est, vraiment, enfin moi je sais que c'est un film que j'ai énormément aimé, bouleversant. Je vais essayer donc de simplement de présenter l'intrigue. Je vais laisser Louis-Marie commenter et puis après on écoutera l'un ou l'autre extrait et les nombreuses choses qu'il y a à dire sur ce film. Donc le cœur de l'intrigue, donc, ça se passe en Allemagne de l'Est, donc dans les années 80, juste avant la perestroïka. C'est donc l'histoire d'un capitaine de la Stasi qui s'appelle, alors je ne sais pas si je vais prononcer correctement, Gerd Weissler, nom de matricule HGWXX7, qui est chargé de surveiller un dramaturge est-allemand, George Dreyman, et sa compagne Christa Maria, actrice de talent. Il est chargé de les surveiller parce que le ministre de la Culture est-allemand, Bruno Empf voudrait en fait voudrait quoi, voudrait, comment on dit ça dans un langage châtier, Louis-Marie,
il voudrait se débarrasser de son rival,
du dramaturge, voilà,
simple. Et... puisqu'il est il est en fait quasiment l'amant de cette actrice.
Et tout le, comment dire, il me semble, hein, vous allez me corriger, Louis-Marie, si besoin, que toute la, le cœur de l'intrigue, c'est vraiment la transformation profonde et intérieure de ce Gerd Weisler qui, en écoutant donc, ce dramaturge et, son, et sa compagne actrice, découvre un monde. Voilà. On imagine souvent, moi je pense souvent comme ça à la Corée du Nord aujourd'hui, ce pays complètement fermé. C'est comme si tout d'un coup, on prenait un Nord-Coréen complètement intoxiqué et qui découvrait, je ne sais pas, la richesse de la culture ou de la littérature française ou italienne, etc.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce Gerd Weisler, Lopman Gerd Weisler, il est, c'est une machine. C'est une machine inhumaine. On, la première fois qu'on le découvre, on le voit en train de donner un cours. Il enseigne les méthodes qui permettent de prendre possession d'un être humain.
Méthode de la Stasi, donc.
Oui, c'est ça. Hein. Pour lui arracher tout ce qui se cache derrière ses mensonges. Et il y arrive. En tout cas, il y arrivait jusqu'à ce que tout se dérègle avec cet espionnage au plus près de ces gens, puisqu'il est, il est littéralement au-dessus d'eux. Il les espionne dans l'appartement qui se trouve au-dessus du leur. Et c'est là où ça commence, ça va commencer à se dérégler, donc dans cette, cet espionnage de tous les instants. Pour bien savoir où il se trouve, il arrive à tracer au sol les pièces... les pièces de la maison, et ça fait un peu comme, comme du théâtre, parce qu'on les sent rentrer, sortir d'une pièce, aller dans l'autre.
Je propose qu'on écoute d'abord un premier extrait qui peut-être peut nous aider à replonger, comme pour le précédent, dans l'ambiance de terreur, hein, c'est comme ça qu'on peut dire, qui avait cours en Allemagne de l'Est. On finit par, par l'oublier, et il est bon de s'en souvenir.
Eh ben, Honecker, enfin le camarade secrétaire général... voit le soleil et dit « Bonjour, mon cher soleil !»«
Bonjour, mon cher soleil !»« Ouais.
» Et le soleil répond « Bonjour, mon cher Erich !» Et à midi, Erich retourne ouvrir la fenêtre, voit le soleil et dit « Bon après-midi, cher soleil !» Et le soleil répond « Bon après-midi, cher Erich !» Et le soir, après le dîner, Honecker retourne à la fenêtre et dit « Bonne soirée, cher soleil !» Et le soleil ne dit rien. Alors, il recommence « Bonne soirée, cher soleil !» Eh ben, qu'est-ce que tu as ? Et alors le soleil lui dit « Ah, on va te faire foutre, maintenant je suis à l'ouest
!» Oui. Vous vous appelez ? Votre grade, département ?
Je... Stiegler. Adjudant Axel Stiegler, département M.
Oui, je n'ai pas besoin de vous dire ce que ça signifie pour votre carrière. Cette histoire est intolérable.
Non, s'il vous plaît, camarade lieutenant-colonel, c'est parce que j'ai pas voulu... J'ai voulu
c'est
juste...
notre parti que vous avez bafoué. C'était de la haine. Et ce n'est sûrement que la pointe de l'iceberg. J'en référerai immédiatement au bureau du ministre. Mais voyons, c'était une blague. Elle était bonne, hein? Mais la vôtre aussi. J'en connais une meilleure. Quelle est la différence entre Erich Honecker et un téléphone? Alors, il n'y en a pas. Raccrocher, recommencer.
Voilà, j'aurais pu mieux l'introduire. C'est donc des membres de la Stasi qui se retrouvent à l'heure du déjeuner. Et donc, il y en a un qui se permet cette blague, qui est repris par son supérieur hiérarchique. Et voilà, on sent la terreur. Voilà.
Oui, ils sont à la cafette.
Ils sont à la cafette. Les blagues de cafette en RDA, ouais. C'était quand même plutôt
proscrit. Il valait mieux les éviter, en tout cas celle-là.
Je sais pas, Louis-Marie ou Paul Dima, sur cette période du communisme, j'allais dire qu'on peut avoir tendance à l'oublier, peut-être comme la Seconde Guerre. Aujourd'hui, l'effort de mémoire reste important.
Alors, oui, tout à fait. Et cette scène-là résume très bien la situation autour de ce qu'on peut appeler la perversion de la parole. C'est-à-dire que tout ce qui est dit, on entend bien d'ailleurs, le supérieur hiérarchique fait semblant lui aussi de raconter une blague qui va contre le pouvoir, après lui avoir dit votre nom, votre
matricule,
etc. Et il lui dit, ça y est, votre carrière, c'est foutu. Hein. Voilà, il ne prend pas la blague pour une blague, il prend la blague pour une attaque contre le pouvoir. Et lui, il fait semblant d'en faire une aussi, et il rigole, et on ne sait plus où est le jeu. Quoi. Et ça, c'est le propre de toutes les dictatures.
Ça fait penser à George Orwell, hein, 1984.
Tout à fait.
Exactement ça.
Ça fait penser surtout aussi au KGB et à tout ça. Hein. C'est-à-dire que la parole est manipulatrice, c'est-à-dire que quel est le statut de ce qu'on dit, eh bien, il y a toujours une ambiguïté, et une ambiguïté qui se retourne contre celui qui se tait ou qui parle. C'est-à-dire qu'il y a un piège qui se referme, et on est isolé, on est enfermé, on est toujours sous la menace, et ça c'est terrible, tout le monde doit se méfier de tout le monde, et ça marche très bien.
Et y compris de toute parole. Oui, Marie.
Oui, c'est exactement ça, le supérieur qu'on entend, et c'est le supérieur de tous les gens qui se trouvent autour de cette table. En fait, celui qui raconte l'histoire sait que c'est un supérieur, il ne le connaît pas précisément, mais il est en train de manger, cet homme-là, l'Oberstleutnant Anton Grubitz, il est en train de manger avec Gerd Wersler, pardon, qui est l'homme qui va espionner. Et c'est là où il lui confie la mission, parce qu'il sait que Gerd Wersler est le type idéal pour ça, c'est une machine, et il sait qu'il arrivera à ses fins, il sait qu'il trouvera le moyen, cet homme, là, Gerd Wersler, de coincer ce dramaturge, George Dreigman.
D'ailleurs, il a mission de le coincer.
Il a la mission de le coincer pour qu'on l'envoie en grand.
Alors, qu'est-ce qui le fait évoluer? Je disais, c'est une impression que c'est, il découvre en fait le monde de la culture via ses personnages, il découvre une forme de liberté intérieure, il entrevoit aussi ce que c'est que l'amour, hein. L'amour qui est plus compliqué qu'une passion érotique, il écoute les passions érotiques mais pas que. Qu'est-ce qui, à votre avis, le fait basculer en fait cet homme? Pourquoi tout d'un coup il y a quelque chose qui s'ouvre dans son cœur?
Parce qu'il est troublé par ce qu'il découvre et qui était impensable pour lui, un couple qui s'aime, un couple où les deux sont des artistes, soit comme écrivain, soit comme interprète. Et il va voler, parce qu'il les écoute, l'appartement est truffé de micros, il suit toutes les conversations. Et l'auteur dramatique apprend à un moment que son ami qui avait été interdit de travail parce qu'il avait joué ou écrit des pièces qui remettaient en cause le régime, était interdit de travail et cet homme se suicide. Et quand quand le dramaturge apprend le suicide de son ami, il y a un grand silence dans l'appartement et on voit à ce moment-là en gros plan celui qui les espionne. Et il se met à jouer au piano et là il est bouleversé, il y a des larmes qui coulent. Parce qu'il réalise que tout d'un coup il y a une autre dignité, un autre monde, c'est pas la haine contre le pouvoir, c'est pas... Il pleure son ami qui a été écrasé par le pouvoir politique. Et il le transforme en musique, une sonate au piano.
Qu'est-ce qui le fait basculer, Louis-Marie, vous diriez? Vous reprendriez ce passage ou qu'est-ce que vous voudriez citer d'autre avant qu'on écoute un extrait?
Non, c'est exactement ça, c'est petit à petit.
Vous êtes toujours d'accord l'un l'autre, c'est bien ça.
Non,
en
mais,
tout cas, aujourd'hui, vous êtes d'accord.
Il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas. On pourrait ne pas l'être, mais en tout cas, pas pour ce film. Et c'est le fait que c'est une machine, cet homme. Et petit à petit...
Le fait que ça soit des artistes n'est pas innocent. C'est-à-dire qu'en fait, il découvre l'épaisseur aussi des personnes qui persécutent d'habitude.
Et exactement. Il découvre, comme le disait justement Paul, il découvre quelque chose dont il ignorait complètement l'existence.
Peut-être même pour lui-même.
Parce qu'en plus, c'est un homme seul. C'est un homme seul qui n'a aucun loisir, si on pouvait en avoir des loisirs à cette époque-là, et quand
aucune
on était
relation.
Officier de la Stasi, on voit la seule relation qu'il a, on le voit manger un soir, on le voit manger donc dans cette fameuse cafette, là il y a des relations, qu'est-ce que vous dites, ce sont des relations de travail, et après on le voit au restaurant, seul, et après on le voit dans une relation avec une femme, c'est une relation tarifée. C'est tout ce qu'il a, cet
avec
homme.
Ces immeubles de la RDA et ces appartements de la RDA qui sont absolument glaçants. On va écouter un deuxième passage. C'est ce fameux Gerd Wersler qui commence à faire du chemin. Et il arrive chez lui, je disais, dans un immeuble sinistre de la RDA, et il croise un petit garçon dans l'ascenseur.
Est-ce que tu es vraiment à la Stasi?
Et toi, tu sais vraiment ce que c'est, la Stasi?
Oui, c'est des hommes méchants qui nous font enfermer, dit mon papa.
Ah bon? Comment s'appelle-t-on?
Mon quoi?
Ballon. Comment s'appelle ton ballon?
T'es pas un peu débile? Les ballons, ils ont pas de nom.
Bon, c'est un peu facile peut-être comme artifice cinématographique, mais le fait que ça soit un enfant n'est pas innocent, évidemment.
Oui, bien sûr. Et on voit là que la mécanique bien huilée se grippe. Il y a un grain de sable dans l'engrenage, alors que spontanément, il pose la question qu'il posait toujours, comment s'appelle-t-on? Et il s'arrête. Comment s'appelle-t-on papa? Pour évidemment le ficher, le faire enfermer, etc. Et ce petit garçon, par sa naïveté, casse la mécanique. Voilà. Et il n'était pas un peu débile, mais c'est à ce moment-là que ce petit soldat qui applique rigoureusement toute la technique pour coincer les gens, les enfermer, etc., devient humain. C'est-à-dire que il laisse, avec un dialogue qui est un petit peu surréaliste, mais il laisse place à une ouverture et il s'en sort, ton ballon, c'est ridicule, mais dans sa faiblesse, il devient humain.
Alors la suite de l'intrigue, pardon, on va raconter un peu la chute, hein, c'est pas très, très fair play, mais voilà, donc le dramaturge en fait écrit un article sur le taux de suicide en RDA pour un grand quotidien de l'Allemagne de l'Ouest.
Le Spiegel,
et donc il est plus que jamais évidemment pisté par les services secrets. Sa compagne Christia Maria se compromet avec la Stasi, voilà, dans une confrontation bien douloureuse avec Gerg Weissler. Bref, Gerg Weissler, on va dire, sauve la mise à ce dramaturge George Dreyman, pardon. Et à la fin du film, voilà, il y a un peu la révélation de ce qui s'est passé pour ce George Dreyman qui va se plonger dans les archives de la Stasi. On va écouter un extrait.
Christa Maria Zieland fut arrêtée le 10 mars à 21h20 sur instruction du ministre Empf pour usage de drogue illicite. Elle fut ramenée en ville le 11 mars à 13h50. Après avoir indiqué la cachette de la machine à écrire de Laszlo et avoir signé son engagement comme collaboratrice non officielle de la Stasi sous le nom de code Martha.
Mais comment a-t-elle fait pour 13h50?
Suite à la perquisition sans résultat de l'appartement le 11 mars 1985 et la mort accidentelle de la collaboratrice Martha, l'opération Laszlo a été stoppée. Note additionnelle. HGW est suspendu de ses fonctions dès aujourd'hui. Il sera muté au département postal M avec la recommandation formelle de ne lui confier aucune tâche supposant une responsabilité quelconque.
10h50, reprise de mon poste de contrôle devant la maison de Laszlo. À 15h10, la collaboratrice Martha arrive directement de Hohenschönhausen et entre chez lui. Perquisition de la maison et rapport des résultats. Fin de l'opération, Laszlo. HGW 27, 15h15.
Qui est HGW 27?
Voilà, donc il découvre que cet homme, derrière ce matricule, donc il y a cet homme qui lui a sauvé la vie. Et, alors peut-être aller en déflore le film jusqu'au bout, mais cette fin est vraiment... c'est la pudeur de cette fin est plus puissante que toute la violence de ce film. Ça, c'est extraordinaire.
C'est bouleversant, parce que la façon dont il... meurt cette femme, il n'avait pas compris, elle meurt accidentellement en se précipitant sous un camion, pardon. Et pour lui, elle a été broyée de la même façon par cette machine implacable, totalitaire, qui est ce régime, et la Stasi en particulier. Et c'est un moment, une fois que le mur est tombé, hein, on est après 89, et qu'il est à nouveau, parce qu'ils sont toujours là, il est à nouveau avec le ministre de la Culture, Bruno Empf, et il parle de cette période, et dont c'est une soirée, et il lui dit, ah ben, Georges Dreyman dit au ministre de la Culture, j'ai eu de la chance, moi, je n'ai pas été espionné. Et le ministre de la Culture lui rit au nez. Il dit, comment ? Mais vous n'êtes pas du tout passé à travers les gouttes. Votre appartement est truffé de micros, vous avez été espionné comme tous les autres. Et c'est là que il s'effondre, une façon de se liquéfier, et c'est là où il va aller aux archives et comprendre ce qui s'est passé et comprendre le rôle de cet homme qu'il a espionné.
Paul Dima.
Qu'il l'a espionné en trafiquant volontairement ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il faisait des faux rapports. Il ne disait rien des menées du dramaturge avec ses amis pour faire passer justement la publication à l'Ouest de l'annonce des suicides en RDA. Il n'était pas question de laisser passer quelque chose comme ça. Il découvre que c'est grâce aux mensonges réalisé par celui qui était chargé de l'espionner, qu'il a eu la vie sauve.
Alors au-delà de l'histoire, qu'est-ce qui est bouleversant, vous trouvez, à la fin ? Je disais que la pudeur de la fin est...
Alors la pudeur de la fin, il a fait, l'auteur de dramaturge, a fait un livre pour raconter cette histoire-là, et l'ex-agent de la Stasi découvre dans une librairie qu'il y a le titre l'espion...
L'histoire d'un homme bon.
L'histoire de l'homme bon. Et il va regarder
Sonate
ce livre.
Bon.
Sonate pour un homme bon. Et il va dans la librairie pour acheter ce livre. Et Georg Dreyman le voit, mais reste dans sa voiture. Et il achète le livre. Et le libraire lui dit, c'est pour offrir. Il dit, non, c'est pour moi. Et il part avec le livre où il va découvrir que celui qu'il avait espionné et sauvé a découvert tout de son histoire, mais il reste à distance, il est libre.
Il lui pardonne aussi d'une certaine manière.
Et bien sûr, il lui pardonne.
On va faire une deuxième pause et puis après on va parler donc du troisième film, Joseph l'Insoumis.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le Ciné-Club de Vivante Église, c'est donc cette émission de ce matin avec pour rappel autour du plateau Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, émission cinéma de Radio Présence le mercredi soir à 19h, et Paul Dima, voilà, monsieur cinéma des Côtes-au-Pays, ces centres spirituels jésuites du sud-ouest, et tous deux animateurs donc du Ciné-Parole, ce Ciné-Club au cinéma l'ABC mensuel qui donne enfin un lieu de dialogue et de commentaires sur un film d'actualité. Donc ce mois-ci, c'est La Douleur. Dernier film de notre émission, Joseph l'Insoumis. Alors c'est pas vraiment un film, c'est un téléfilm français réalisé par une certaine Caroline Glorion, sorti en 2011, diffusé sur France 3. C'est l'histoire, alors pas toute l'histoire, une partie de l'histoire de Joseph Wrzinski. Joseph Wrzinski, c'est le fondateur d'ATD Quart-Monde, pour faire rapide. C'est un homme qui avait connu lui-même la misère étant enfant et qui est devenu prêtre. Et qui un jour est rentré après-guerre à Noisy-le-Grand dans un gigantesque camp, dans un camp du Quart-Monde. Voilà, aujourd'hui c'est un terme bien connu pour décrire ceux qui vivent la misère, même pas la pauvreté, la misère en France. Et il avait cette phrase: ce jour-là, je suis entré dans le malheur. Téléfilm donc qui décrit son combat avec ces personnes. Peut-être Louis-Marie, Caroline Glorion, voilà, qui est-ce? Et puis, selon un téléfilm, c'est un choix un peu particulier.
Oui, mais c'est un téléfilm qui est juste sur son propos et le parti pris et la raison pour laquelle cette réalisatrice a fait ce film. Caroline Glorion, elle est journaliste, elle est documentariste, elle est écrivaine aussi, et elle a rencontré Joseph Wrzinski, et c'est ce qui l'a touché au plus profond et qui l'a amené à faire ce film après cette rencontre qui, pour elle, a, d'une certaine façon, bouleversé sa vie.
Alors on va écouter un premier extrait. Donc Joseph Wrzinski est joué par Jacques Weber, c'est donc sa voix que vous allez entendre. Cet extrait est au début de ce téléfilm, qui est une forme de présentation de ce qu'est ou de ce que fait le père Joseph Wrzinski.
Je m'appelle Joseph Wrzinski, et je vis ici, dans la banlieue de Paris, au milieu de ces familles qui réveillent douloureusement le souvenir de mon enfance et la misère de mes parents. En cette fin des années 50, la France se reconstruit, sans se préoccuper de nous, les oubliés du progrès, entassés dans ces bidonvilles qui poussent comme des champignons autour des grandes villes. Parfois, on parle de nos actualités. On nous présente comme des inadaptés, des illettrés réfugiés sous ces tôles. Et la bouille des gosses, la crasse et la boue, déclenchent la condescendance et la crainte. Moi, je suis aumônier ici. Je partage la vie des gens. Et je sais que tout ce que je peux entreprendre ne servira à rien, tant qu'ils resteront dépendants de ces œuvres de bienfaisance. C'était ce dont j'avais le plus souffert dans mon enfance. Les regards de pitié, mais surtout l'humiliation d'être toujours celui qui reçoit. Ce sentiment insupportable d'aliénation.
Donc c'est un téléfilm assez réaliste, on aura l'occasion de leur dire, où ça n'est pas joué que par des acteurs, enfin en tout cas pas que des acteurs professionnels. On l'explicitera peut-être ce propos un peu plus tard. Quelques mots peut-être sur Joseph Wrzinski, Paul Dima. Moi, j'avoue que j'ai découvert Joseph Wrzinski en m'occupant de Vivante Église, à force de fréquenter des gens qui s'occupent de la diaconie et de la beauté. Et voilà, et on voit qu'il y a une famille spirituelle, même aujourd'hui, qui existe en France autour de cet homme qui a, comment dire, un peu révolutionné après-guerre. C'est comme un complément de l'abbé Pierre, presque, dans l'histoire de France. Hein, c'est...
Tout à fait. Tous les deux, aussi bien l'abbé Pierre que Joseph Wrzinski, ont pris parti pour défendre ceux qui sont exclus. Joseph Wrzinski, de façon tout à fait particulière, parce qu'il venait de ce monde-là. Il savait dans sa chair ce que c'était que d'avoir faim, mais surtout d'être objet de mépris, de rejet. Il était sale, pas bien habillé, etc. Et à Angers, où il vivait, il faisait partie des exclus de la société. Il avait honte pour sa mère, il avait honte de ce qu'il était. il s'est dit, il a pas épousé une situation qui était extérieure à lui. Il a dit plus jamais ça. Il faut pas tolérer la misère, il faut se battre pour la dignité, pas contre la misère, mais pour la dignité, parce que c'est ce qui fait qu'un homme et une femme sont debout.
Les deux, hein. Il dit aussi qu'il faut détruire la misère.
Il faut détruire la misère, c'est ça. C'est pas se battre contre, c'est la détruire pour la dignité des personnes.
Voilà, Joseph Brzezinski, donc on peut dire le cœur de son combat, là où c'était là, il y avait une forme de peut-être de révolution qui est pas du tout faite encore hein, dans nos esprits, c'est que en fait il combattait l'assistance à la charité. Est-ce que vous pouvez compléter peut-être ce propos?
Oui, et alors il a pas été compris du tout, même par les gens avec lesquels il avait choisi de vivre, parce que quand il arrivait dans ce bidonville, hein, c'était vraiment un bidonville dans la boue et tout ça, il a dit fichez-moi dehors, la soupe populaire. On n'a pas besoin d'assistance. Et les gens lui disaient, oh, mais dis donc, toi tu parles bien le curé, mais qu'est-ce qu'on va donner à manger à nos enfants? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc il y avait une révolte contre lui en disant, mais il dit non. Comment vous faisiez avant quand il n'y avait pas la soupe qui vous était donnée? Eh bien, vous vous débrouillez. Eh bien, on va se débrouiller. On va faire un potager. On va planter des légumes. C'est-à-dire, on ne va pas vivre de l'assistance qui nous maintient dans la dépendance. On est capable. Vous êtes capable.
Je citerai juste un extrait. Il se trouve que dans la revue Limite, cette revue d'écologie intégrale de ce trimestriel, je suis tombé sur un article qui parle du père Joseph Brzezinski. Et il dit la chose suivante: ce n'est pas d'avoir faim, de ne pas savoir lire, ce n'est même pas d'être sans travail qui est le pire malheur de l'homme. Le pire des malheurs est de vous voir compter pour nul, au point où même vos souffrances sont ignorées. Le plus grand malheur de la pauvreté extrême, c'est d'être comme un mort-vivant au long de son existence. C'est un film, un téléfilm, moi j'ai trouvé que c'était quand même vraiment très dur, alors comme la misère, hein, mais il y a un moment où on cale, quoi, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, Louis-Marie, la misère, on se la prend dans la gueule.
C'est une mise en scène très adroite de la part de Caroline Glorion, et le scénario est remarquablement écrit. Elle l'a coécrit avec Philippe Dussault et Colo Tavernier, qui est la femme de Bertrand Tavernier, qui était la femme de Bertrand Tavernier. Et elle a apporté beaucoup de soins aussi aux décors, qui ont été faits de façon assez remarquable. On est dans ce bidonville. Hein. Il a été reconstitué exactement. Pratiquement, on peut imaginer que c'était tout à fait comme ça, les conditions dans lesquelles ces gens vivaient. Et elle s'est appuyée sur donc ces décors remarquables. Vous l'avez signalé aussi par des acteurs non professionnels qui sont en fait des personnes qui vivaient à l'époque dans les mêmes conditions que ceux qu'ils incarnent au cinéma, enfin dans son film, pardon. Et ensuite, elle a su remarquablement mélanger, parce que on peut considérer que ce film est une fiction documentée, un documentaire fiction ou une fiction documentée, parce que au moment où, dans l'extrait que vous avez diffusé tout à l'heure, un moment où le père Brzezinski parle de ses enfants couverts de boue, les images qui illustre son propos, parce que c'est une voix off, là on ne le voit pas, ce sont des images d'actualité. On les voit précisément dans ces bidonvilles. On voit ce qu'étaient ces bidonvilles à l'époque, donc à l'époque dont il parle. C'est pas des images du décor du film, ce sont des images d'actualité.
Je propose qu'on écoute un extrait. Cette fois, c'est une interview donc de Jacques Weber au micro d'Yves Calvi, donc pour RTL, où il revient sur cette réalisation où il a joué donc avec des gens qui sont dans la misère, et qui illustre aussi donc quelque chose de fondamental pour le père Joseph Brzezinski, pour lequel il s'est battu et pour lequel se bat aujourd'hui encore à TD Quart Monde, qui est de donner ou de faire exister la parole des plus pauvres dans les médias et dans le débat politique.
Vous avez tourné avec des comédiens eux-mêmes issus de la grande pauvreté. Expliquez-nous.
Alors ça, c'est la grande réussite de la réalisation de Caroline Glorion, c'est que c'est pas facile de dire on va mélanger des gens qui sont réellement de la misère et qui jouent leur propre rôle. C'est compliqué. Et là, elle les a fait énormément travailler comme des acteurs, à partir de textes improvisés, d'improvisations qu'elle leur proposait, d'improvisations qu'ils proposaient et de leur propre vie. Et moi, je me suis retrouvé à jouer des scènes, après ce gros travail qu'elle a fait d'atelier, à jouer des scènes où il y avait un mélange, il y avait un un mixte entre des improvisations et des histoires réelles. Et moi, mon problème, c'était de ne pas être ému de façon visible, parce que c'était tellement invraisemblable ce que j'entendais, que c'était bouleversant.
Mais justement, on se sent comment en soutane au milieu de la Cour des Miracles ?
Mais moi, je vais vous dire, la soutane, quelque part, je m'en foutais, si ce n'est que je la respecte, enfin,
d'assez loin.
D'assez loin. Enfin, d'une certaine façon. D'une certaine façon. Mais non, mais ce qui est, j'étais complètement, je recevais une grande claque tous les jours, quoi, voilà, en gros.
Vous recevez une grande claque tous les jours, et c'est vrai qu'on reçoit une claque en regardant ce documentaire. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, entre autres, sur cette importance de la parole ? Je sais que le 17 octobre, qui est donc la journée mondiale du refus de la misère, instituée donc par le père Joseph Wresinski, en tout cas dès son vivant, il est essentiel de faire exister la parole des plus pauvres. Voilà, c'est qu'il faut qu'ils puissent avoir voix au chapitre, qu'on les entende.
Oui, et il a aussi une action tout à fait novatrice et révolutionnaire, c'est-à-dire ce qu'il faut à des gens, pour des gens qui sont dans la misère, il faut des livres, il faut un salon de maquillage pour les femmes, il faut des jardins où les enfants puissent jouer, une école, etc. Et alors qu'on pourrait penser, ce qu'il faut d'abord, c'est qu'ils puissent se nourrir et s'habiller. Eh ben non, ça suffit pas. C'est pas ça ce qui constitue la personne dans sa dignité. Bien sûr, il faut ça, mais c'est pas suffisant. Et ça a été tout le combat, et poursuivi ensuite par le mouvement ATD Quart-Monde. Et il y a même des conférences, il y a des universités du Quart-Monde qui produisent des textes. Il y a une recherche théologique qui fait à partir de leurs paroles. Et il y a une thèse de théologie qui a été défendue, qui est remarquable, sur ce que l'Église latino-américaine appelle non pas l'option préférentielle pour les pauvres, parce qu'on dit tiens, oui, les pauvres, c'est en option, si on veut, on s'en occupe. C'est, dans les termes de cette théologie, c'est le choix de la préférence donnée aux pauvres.
La préférence, souvent au micro de cette antenne, je fais écho aussi à d'autres émissions, ceux qui sont de la spiritualité du père Joseph Wresinski disent qu'il ne faut pas faire pour ni avec les pauvres, mais à partir des pauvres. Et que quand à l'intérieur de l'Église ou de la société, on commencera à faire à partir des pauvres, et ben alors le monde sera différent. Oui, Marie Soler, le mot de la fin.
Que dire d'un film comme ça, avec un sujet comme celui-là et un personnage hors norme comme le père Wresinski, c'est que je parlais de fiction documentée, de documentaire fiction, mais il y a aussi, grâce à cet homme et grâce à ce qui se passe, et il y a quelque chose de romanesque aussi dans ce film, et c'est ce qui rend ce film passionnant et qui lui donne ce grain, ce qui fait qu'il y a quelque chose quand même d'exceptionnel là-dedans.
Pour finir, une dernière citation du père Wresinski qui a dit entre autres la chose suivante: toucher aux plus pauvres, approcher la souffrance nous oblige tôt ou tard à boire jusqu'à la lie le calice, c'est-à-dire à tout abandonner pour n'aller qu'aux plus pauvres, aux plus rejetés, mais cela n'exclut pas l'espérance de la résurrection. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église. Le prochain Ciné-Parole, c'est donc mardi 30 janvier prochain. Deux séances, 14h30 et 20h30. La première avec Paul Dima, la deuxième avec Louis-Marie Soler, sur donc le film à l'affiche La Douleur. Et donc, précipitez-vous pour constituer votre DVD tech idéal. Peut-être deux autres films à voir, La Vie des Autres et Joseph l'Insoumis. Merci beaucoup d'être venu ce matin chez nous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.